Soyez les bienvenus à l'écoute de RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, où il est 3h, soit 2h en temps universel. Voici votre journal.
Jérôme Bastion.
Dans l'actualité de ce jeudi 7 novembre 2024, la candidate démocrate malheureuse de l'élection présidentielle américaine a reconnu sa défaite. Kamala Harris promet de faciliter le transfert du pouvoir. Toujours est-il que son échec cuisant traduit surtout l'absence de stratégie de son parti. Les sympathisants du camp démocrate trouvent la pilule un petit peu amère. Vous entendrez leur réaction dans un état anciennement bleu qui a viré au rouge, le Michigan. Alors que dans le camp républicain, on attend avec impatience les premières mesures sur l'immigration. Parmi les mesures annoncées par le futur président Trump et qu'il avait d'ailleurs déjà appliquées lors de son premier mandat, il y a les barrières douanières renforcées qui inquiètent l'agroalimentaire et l'industrie des exportateurs français. Kamala Harris aurait pu devenir la première femme présidente de l'histoire des États-Unis, mais les électeurs américains en ont décidé autrement en élisant son rival républicain Donald Trump et même largement avec plus de 5 millions de voix d'écart. Analyse des étapes successives qui ont fragilisé les chances de Kamala Harris d'accéder à la Maison-Blanche avec Yelena Tomic.
Déficit de notoriété, campagne éclair, programme flou, incapacité à reconquérir un électorat de la classe ouvrière blanche, ni à garder l'avantage sur le vote des femmes et des minorités de couleur, les erreurs de stratégie du camp démocrate sont multiples face à des adversaires mieux préparés autour d'un programme plus concret, axé sur l'économie et l'immigration, et qui ont démontré leur capacité à faire déplacer les indécis aux urnes. L'équipe sortante a donc failli sur plusieurs plans, à commencer par l'abandon tardif de Joe Biden et l'entrée en lice de Kamala Harris sans passer par la case des primaires, ce qui lui a valu un manque de légitimité dans une partie de l'électorat démocrate. Autre pari raté, l'incapacité du camp démocrate à s'unifier derrière un programme clair. La campagne a davantage consisté à faire du scrutin un référendum anti-Trump que de se préoccuper du sort des classes populaires, là où le camp républicain a conduit une stratégie de mobilisation des abstentionnistes à travers un programme populiste. La politique de soutien à Israël de l'administration sortante a également joué en leur défaveur. Donald Trump a lui promis de mettre fin à ce conflit sans expliquer comment.
Yelena Tomic du service international de RFI. Les électeurs démocrates ont donc vécu un dépouillement particulièrement sombre et triste, annoncé au coude à coude avec Donald Trump au départ. Kamala Harris a finalement été largement devancée, celle qui a très tardivement lancé sa campagne le 21 juillet dernier après le retrait de Joe Biden a été distancée dans de nombreux États, pourtant remportée par Biden en 2020, notamment dans ce que l'on appelle le Blue Wall, autrement dit le mur bleu, couleur des démocrates, et qui est devenu un mur rouge. La Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan ont en effet tous voté républicain. Le Michigan où s'est rendue notre correspondante Lubna Anaki dans les rues de Detroit, où elle a croisé des électeurs démocrates très remontés contre leur propre parti, à l'image de Maggie.
Je déteste le fait que Trump ait gagné, même si je ne suis pas fan d'Harris et de certaines de ses positions. Mais je suis tellement en colère que Trump soit passé. C'était littéralement facile et les démocrates ont merdé.
Autre réaction survenue ce mercredi, c'est les cris de joie dans l'autre camp, les militants du Grand Old Party, comme on l'appelle, comme ceux de Laura, cette militante républicaine du comté de Washington, près de Pittsburgh. Si son État a majoritairement voté démocrate, c'est bien son champion qui l'a emporté, Donald Trump, qu'elle attend désormais au tournant et qui doit, selon elle, s'attaquer immédiatement à la question de l'immigration une fois de retour à la Maison-Blanche.
Moi, je pense qu'il faut d'abord expulser tous les immigrants illégaux. Ils ont le droit de venir, mais ils doivent passer par la porte principale et apporter une contribution à notre pays. Ce qui se passe ici, comme en Europe d'ailleurs, c'est que nous perdons la culture de notre pays. Les gens qui viennent d'ailleurs ne connaissent pas notre histoire, ni ce qui fait notre grandeur. En fait, ils détruisent notre mode de vie et nous privent de ce qui fait notre identité.
Des propos recueillis par l'envoyé spécial de RFI dans l'État de Washington, Achim Leipold. Je vous rappelle également que cette large victoire qui attribue au parti de Donald Trump 295 grands électeurs contre 226 au parti de Kamala Harris affirme, sécurise également une majorité et au Sénat et à la Chambre des représentants pour le parti républicain. Voilà pour les répercussions politiques de cette élection américaine, mais au volet économique, la bourse de Wall Street se termine à des niveaux records, une envolée après un virage très protectionniste. Pendant la campagne électorale, Donald Trump a assuré qu'il imposerait des droits de douane de 10% supplémentaires sur les produits importés aux États-Unis et de 60% supplémentaires sur les produits venus de Chine. Lors de son premier mandat, il avait engagé une guerre commerciale avec la Chine, mais avait aussi utilisé les droits de douane pour faire pression sur certains de ses partenaires, les Européens par exemple. Alors en France, le retour au pouvoir du milliardaire américain suscite des craintes dans tous les secteurs exportateurs. Justine Fontaine.
À commencer par les producteurs de vin et de spiritueux.
Le marché américain, c'est le premier marché exportateur de vin français.
Jérôme Bauer est vigneron en Alsace, dans l'est de la France. Il préside la Confédération nationale des appellations d'origine contrôlée. Et il n'est pas ravi, loin de là, de voir revenir Donald Trump à la Maison-Blanche.
Lorsqu'il était président, il a d'ailleurs mis en place une taxe sur les vins et spiritueux français. Et Joe Biden a décidé de mettre un moratoire en place de cette taxe de 5 ans. Donc jusqu'en 2026. Donc on a une véritable épée de Damoclès au-dessus de nos têtes hein, et on imagine que cette taxe va revoir le jour incessamment sous peu.
Et si Donald Trump applique effectivement les droits de douane évoqués pendant la campagne, les viticulteurs seraient loin d'être les seuls affectés, souligne Fabrice Le Sachet, vice-président du MEDEF, le principal syndicat français des patrons.
C'est quasiment tous les secteurs de l'automobile, au luxe, l'aéronautique, c'est vraiment problématique. Et surtout, c'est perdant-perdant parce que le protectionnisme et les barrières commerciales, ça tend à détruire de la création de richesses à l'échelle mondiale.
En réaction à de nouvelles barrières douanières, certaines entreprises pourraient décider d'investir et d'embaucher directement aux États-Unis, au lieu par exemple d'ouvrir une usine en France ou en Europe.
Justine Fontaine pour le service économie de RFI. Et puis cette information communiquée dans la soirée par la présidence américaine, la Maison-Blanche, le président démocrate sortant Joe Biden prononcera ce jeudi à 11h locale, soit 16h GMT, son allocution à la nation suite à cette élection présidentielle. Un mot de football pour terminer la quatrième journée de Ligue des Champions s'achevait ce mercredi soir avec 9 matchs à l'affiche. Une soirée marquée par quelques surprises, beaucoup de buts bien sûr, 25 au total, dont 2 par l'Ivoirien de Salzbourg, Karim Monaté. Le point avec Eric Mamrut.
Un doublé pour ouvrir son compteur en Ligue des Champions, soirée mémorable pour l'avant-centre de Salzbourg. Karim Konaté pas loin du triplé si son pénalty n'avait trouvé la barre transversale du Feyenoord. Le club autrichien du jeune ivoirien s'impose tout de même à Rotterdam 3-1 grâce à un troisième but inscrit par le malien Daouda Guindo. C'est l'Algérien Anis Moussa qui a marqué pour les Bataves. Le Congolais Silas Katompa se souviendra également de son tout premier but européen, inscrit, excusez du peu, contre le FC Barcelone. Le premier d'un match qui s'est néanmoins mal terminé pour son équipe de l'Étoile Rouge, écrasée à Belgrade 5-2 par le Barça. La défaite également pour le Ghanéen Thomas Partey et Arsenal, vaincu chez l'Inter Milan 1-0. L'Atalanta Bergame s'est imposée à Stuttgart 2-0, grâce notamment au 10e but de la saison toute compétition confondue du Nigérian Ademola Lookman. Le but de son compatriote Victor Olatunji n'a pu éviter la défaite du Sparta à Prague face à Brest 2-1. L'équipe bretonne désormais 4e au classement qui n'en finit pas d'étonner pendant que le Paris Saint-Germain n'en finit plus de décevoir. Le PSG d'Achraf Hakimi, battu chez lui par l'Atlético Madrid 2-1 et qui se retrouve à mi-parcours dans le wagon des éliminés de cette phase régulière.
Et c'était Eric Mamrut du service des sports. À noter encore la victoire du Bayern Munich face à Benfica 1-0, celle du Shakhtar Donetsk face aux Young Boys de Berne 2-1 ou encore la défaite d'Aston Villa à Bruges 1-0. Fin de ce journal, tout de suite vous retrouvez l'émission 8 milliards de voisins et l'info revient dans 50 minutes sur RFI.